fond de la plus tendre et de la meilleure des âmes peuvent surgir des désirs d'intense violence. Un jour peut-être les hommes apprendront-ils à lutter contre ces monstres de l'esprit. Alors, et alors seulement, quand le cerveau humain sera vraiment capable de se contrôler, nous pourrons songer à utiliser les puissances cachées de l'univers.
N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. Septième dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème dimension au menu du jour du zombie, du topless. Du zombie topless, c'est le programme des réjouissances qui vous attend avec le retour des morts-vivants 3 de Brian Yuzna. Et comme à notre habitude, notre créneau à nous, eh ben c'est le cinéma de genre et c'est le bordel. Et là, c'est un bordel organisé de main de maître par notre ami Brian Yuzna. Alors, organisation des enregistrements et des épisodes, bien entendu, traité de la saga Reanimator ouvre des portes, et ça a défini les deux vérifs suivantes. Donc là, on s'est attaqué au retour des morts-vivants 3, et ce qui va suivre très rapidement, parce que bien entendu, une Mindy Clark en petite tenue, et ben ça rappelle une Barbara Crampton aussi en petite tenue, donc c'est pour ça que vous aurez le plaisir, les honneurs d'accueillir From Beyond dans la vérif qui suivra assez rapidement celle-ci, c'est-à-dire 15 jours plus tard. Alors, comme j'en ai pris l'habitude depuis un certain temps, et vous allez dire que j'ai même pris l'habitude de dire que j'ai pris l'habitude, donc on va replacer un petit peu le retour des morts-vivants 3 dans le contexte de la cinéphilie de celui qui tient le micro, le crachoir, votre humble serviteur de 7ème dimension. Alors, le retour des morts-vivants 3, eh ben, c'est un DTV. Pour la France, en tout cas. Donc j'ai pas souvenir que c'ait été diffusé en salle. Alors, en salle, ça l'a été pour les besoins des festivals, normalement Gérard May, si je me souviens bien, parce que à cette époque-là, 93, oui, je crois qu'Avoriaz n'était plus de ce monde, si je dis pas de bêtises, à confirmer. Mais en attendant, je sais que ça a eu les honneurs des festivals, donc dédiés au cinéma de genre, et nous, on a récupéré ça eh ben, dans notre vidéoclub habituel, et c'était TF1 Vidéo qui s'était occupé de cette fameuse édition. Alors, ce qui m'a toujours plus ou moins fait rire, c'est qu'au final, cette chaîne de télévision qui est la nôtre, c'est-à-dire TF1, hein, qui est pas non plus connu pour passer du cinéma de genre, et ben au niveau édition vidéo, et ben elle nous a permis de découvrir notamment toute une ribambelle de Brian Yuzna quand ce n'était pas des rééditions de films de Joe Dante. Il y avait même eu un partenariat pour ceux et celles qui s'en souviennent, qui ont connu ça. Il y avait eu un partenariat entre Mad Movies et TF1 Vidéo pour les besoins de réédition de films de Joe Dante, notamment me vient en tête cette jaquette qui était plutôt jolie d'ailleurs, de Hurlement, un film de loup-garou. Donc voilà, donc nous on a récupéré ça. Alors je dis nous parce que bien entendu le terreau de 7ème dimension, c'est la rencontre entre deux personnes, c'est-à-dire entre moi-même et Peterson, et qui donnera le magazine, et bien entendu aujourd'hui le podcast que je mène de manière solo. Donc Peterson est juste un invité de marque que l'on a une fois par an, et on l'a pas eu en 2024, donc il ne saurait tarder. Donc on avait récupéré ça dans le vidéoclub, et On a toujours eu, en fait, je me remets un petit peu dans le contexte de l'époque, hein, de nos 13 piges. Pour nous, Brian Yuzna, c'était un peu, vous savez, comme ce copain bien sous tout rapport physiquement, mais un peu fou dans sa tête, où lors d'une soirée, eh ben, il va être, terme utilisé aujourd'hui, malaisant. On va lui dire, mais mec, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, Brian Yuzna, avant de récupérer son retour des morts vivants 3, on s'était dit dans notre tête que quelque part ça allait être sale. Voilà. Donc là où, parce que je remettrai un petit peu dans le contexte ce film qui est un numéro 3 dans cette franchise, parce qu'au départ, ça n'en était pas une, qui en est devenue une par non pas une volonté de faire des suites, mais plutôt une volonté de faire de l'argent. Voilà. Donc effectivement, ce film-là, le film d'origine, Le Retour des Morts Vivants de Dan O'Bannon de 1985, c'était un truc un peu fun. Donc on savait très bien, même avant de voir Le Retour des Morts Vivants 3, qu'on serait pas sur un truc un peu fun. Voilà. Et phrase de Peterson à l'époque, voilà, quand à la revoyeur du film, c'était « Mon Dieu, que c'est sale ». Voilà. Donc oui, Brian Yuzna a des idées sales, tout le temps. Voilà. Donc, on pourrait le remettre dans le contexte de toute sa filmographie, hein, que ce soit du dentiste. En passant, je crois que les idées les plus sales qu'il ait pu avoir, ce mec-là, je crois que c'était même dans, pas forcément sur un long métrage, mais plutôt sur un segment de long métrage, pour une œuvre qui atterrira bien entendu dans la vérif, qui est Necronomicon. Voilà. Donc, ce Retour des morts vivants 3, on le récupère en vidéo. Et ce qui est bien avec ce film-là, c'est que l'affiche est une promesse. Voilà. Donc, quand on a 13 piges, voilà, et que l'on s'éveille aux joies du cinéma d'horreur, des premières beuveries et de l'attirance pour le sexe opposé, voilà. Donc forcément, une affiche où on y voit une Mindy Clark, donc actrice de cette œuvre que l'on pourrait qualifier de charnelle du cinéma d'horreur. Quand on voit cette affiche avec une Mindy Clark hyper sexualisée tout en étant hyper dangereuse, et ben c'est la promesse de quoi? Et ben de ce que Gordon et Yuzna, nos deux compères, nous avaient habitués déjà depuis Reanimator, du cul et du gore. Voilà. Donc, dans ce tandem qui est Gordon, qui est constitué par Gordon et Yuzna, on dira que Gordon, c'est le mec le plus sympa, c'est un peu le tonton la pute, entre guillemets, qu'on a dans les repas avec la bonne blague, la bonne gaudriole, alors que Yuzna, c'est juste l'espèce de mec à lunettes qui ne rigole pas, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on n'a pas le compère de la gaudriole, donc ça, vous l'aurez pour From Beyond, on l'a plutôt celui qui rigole pas. Et effectivement, ce Retour des Morts Vivants 3, même s'il y a de l'humour, c'est pas un humour franc du collier et direct, c'est plutôt un humour situationnel, et c'est plutôt un humour que vous aurez, parce que quand on réceptionne un film gore, le sentiment naturel de tout être humain, c'est soit le rejet, soit de rigoler devant ce déluge en fait de barbac qui nous est proposé. Voilà. Donc, alors avant d'en arriver au contexte de ce troisième opus, de cette deuxième séquelle, remettons un petit peu l'église au milieu du village, la mairie aussi au milieu du village, donc l'ensemble des institutions au milieu de ce putain de village. Oui, vous avez vu, je suis en forme. Et pour vous donner le contexte, j'ai pris l'habitude maintenant d'enregistrer les septièmes dimensions en mode bourgeoisie, c'est-à-dire les samedis en début d'après-midi autour d'un café, voilà, d'une petite vapote, deux, trois notes posées sur le clavier. Je vous donne le contexte. Donc, le titre est déjà con, le titre est déjà foireux. Return of the Living Dead. Voilà, et donc ça, je développerai quand je chroniquerai le premier film, parce que ça arrivera à un moment ou à un autre, mais c'est vrai que déjà, le titre porte à confusion, c'est-à-dire que le film de mort-vivant, jusqu'à preuve du contraire, dans les années 80 jusqu'au début des années 90, est l'apanage de Monsieur Georges Romero. Donc ça s'appelle La Nuit des Morts-Vivants, ou ça s'appelle Dawn of the Dead, ou Le Jour des Morts-Vivants, donc il y a toujours quelque chose devant les morts-vivants. Voilà, donc ça, c'est une habitude. Et là, on a le retour. Donc, on pourrait considérer qu'en fait, il y a déjà eu un premier film, alors que non. Voilà, C'est ça qui est top, voilà, déjà avec le retour des morts vivants. Donc le premier opus de ce qui s'appelle en VO, c'est Return of the Living Dead, voilà, vous l'avez vu, je l'ai bien fait, on dirait un lanceur de bande-annonce anglophone. Donc ce retour des morts vivants était le fruit, en fait, du cerveau dérangé, mais plutôt bien câblé dans le cas de ce premier opus, de Dan O'Bannon. Dan O'Bannon, qui était le scénariste émérite avec Ronald Chaussette, de ce film horrifique de couloir, mais dans l'espace, qui est Alien de Ridley Scott. Voilà, donc je ne critique pas Alien, mais c'est quand même un film de couloir dans l'espace, quand même, hein, on va pas se mentir. Donc, ce scénariste émérite est passé à la réalisation par deux fois, et la première fois, c'était pour ce Return of the Living Dead, qui était... oui, j'ai bien kiffé le dire en version anglaise. Donc, ce retour des morts vivants, c'était pour lui un moyen de rendre hommage aux EC Comics américains. Donc, c'est bande dessinée, pas très éloignée, donc c'est la même vague, hein, pas très éloignée des Tales from the Crypt, que j'ai déjà chroniqué ici avec le film qui en avait été tiré, qui est Demon Knight. Donc voilà, c'était pour lui un hommage à une certaine forme d'horreur un peu décontractée. Et c'est vrai que ce retour des morts vivants mettant en scène Clue Gallagher, Tom Matthews et aussi Linnea Quigley, qui était à l'époque et une, ce qu'on appelle une Scream Queen, et elle avait pour particularité, à l'inverse de l'actrice principale d'Halloween, de se dévêtir, et ça c'était plutôt cool pour nous en tant qu'adolescents, surtout quand elle se faisait faire des papouilles par tout un tas de vieux gars, comme elle le dit dans le film, qui sont des zombies dans un cimetière. Donc ça, c'est pour le premier film. Alors, quelle était la particularité de ce premier Retour des morts vivants ? Voilà, c'est qu'il introduisait des notions méta. Voilà, donc le côté méta dans le cinéma horrifique, si on remet un petit peu les plots d'usage, on pourrait dire qu'on l'a vu arriver avec le travail de scénariste de Kevin Williamson pour les Scream, c'est-à-dire dans un film d'horreur, de citer un autre film d'horreur. Voilà, donc voilà. Donc le méta, aujourd'hui, vous en avez partout, avec notamment l'émergence du MCU, etc. Mais on va dire que le terme méta est vraiment arrivé dans le cinéma horrifique avec le premier Scream de Wes Craven. Sauf que c'était déjà présent, en fait, dans ce film de 1985 de Dan O'Bannon. Pourquoi ? Parce que, très rapidement, ce contexte de zombies dans la narration, les personnages, eux, vont faire référence au film La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Donc ils incluent un film de la culture populaire dans ce qui leur arrive. Et le film jouait aussi avec plusieurs codes, parce que, je vais pas vous mentir, ce film-là, Le Retour des Morts Vivants, bizarrement, comme je l'avais vu assez jeune, je crois que je devais avoir entre 8 et 9 ans, il m'avait en fait traumatisé, non pas par ce qu'il affichait visuellement, mais surtout par ce petit carton qu'il y avait au début du film, donc qui était bien vu d'ailleurs de la part de Dan O'Bannon, c'est-à-dire qu'il avait mis quelques mots qui disaient que ce film était inspiré de faits réels et qu'ils avaient dû changer les noms pour brouiller un petit peu les pistes. Et effectivement, de suite, rien que ces quelques lignes, moi, sur mon cerveau de gamin, je m'étais dit, mais donc ça veut dire que les zombies existent. Donc voilà, donc le film de Dan O'Bannon amenait ce côté méta sur la culture du film de zombies, et notamment de l'œuvre de George Romero, et il y a rajouté plusieurs choses aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on parle en fait de zombies, voilà, tu vois, alors j'avais pas du tout prévu de placer la thématique du zombie dans cette chronique, mais j'ai envie de vous dire, et pourquoi pas ? Voilà. Donc, quand on parle de zombies, si on se réfère à la culture du vaudou, parce que c'est de là que ça vient, donc il y a cette idée de contrôle, de pilotage d'une personne par une autre. George Romero réutilise cette idée-là pour l'amener avec un retour des morts, parce que ça c'est quelque chose qui arrivera, alors suggéré par un prêtre dans Dawn of the Dead alias Zombie, que ben, quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. Dans La Nuit des Morts Vivants, c'était par le passage d'une comète, mais globalement, le zombie que met en place Romero est un mort-vivant qui marche très lentement. donc l'équivalent finalement de Jason Voorhees à partir du deuxième épisode, parce que bien entendu dans le premier Vendredi 13 il n'est point question de Jason Voorhees, ou moins du moins dans les derniers plans du final du premier film. Donc le zombie de Romero, sa caractéristique c'est qu'il marche lentement. Bon, il arrive toujours plus ou moins à ses fins, comme Michael Myers ou Jason Voorhees. Et après est venu très rapidement, avec le retour des morts-vivants, une autre vague de zombies, c'est-à-dire que dans le retour des morts-vivants, il se mouvoit très très rapidement, et il parle aussi. Donc ça veut dire qu'on a des zombies qui ont conscience d'être des zombies. Et ça peut les rapprocher d'un autre type de mort-vivant, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le vampire est un mort-vivant. Parce qu'il est mort, mais il déambule, il réfléchit. Donc, de manière générale, le vampire, il y a plusieurs catégories, mais la plupart du temps, quand il se casse pas les couilles sur sa condition, c'est-à-dire chez Anne Rice, à chialer tout le temps, parce que, être immortel, c'est long et chiant, voilà. De manière générale, on a quand même un mort-vivant plutôt fringant, voilà, si on se réfère à Dracula, donc avec différents postiches, différentes coiffures, différentes fringues, plutôt amoureux et plutôt énergique. Voilà. Donc, en fait, ce zombie qu'on voit dans le retour des morts-vivants de Dan O'Bannon, il y a une réflexion de se dire, bon, mais voilà, ça va être quand même quelqu'un qui revient d'entre les morts, et donc il va y avoir une phase de dégénérescence et la chair décrépit, voilà, qui va avancer au fur et à mesure du métrage, mais selon l'état avancé de décomposition, eh ben, ils sont en capacité de parler. Et on va les rapprocher des vampires, comme on a pu le voir dans Le Vampire de John Carpenter ou dans 30 jours de nuit, ce sont quasiment des ghouls, donc ce qui les préoccupe, en fait, on a gardé cette idée-là, et on la rajoute, parce que ça c'est la plus ou moins la nouveauté qu'amène le retour des morts-vivants, c'est que ce sont des bouffeurs de cerveau, voilà. Et ils bouffent le cerveau, en fait, parce qu'il y a même un personnage zombie qui en parle, en fait, dans l'œuvre de Dan O'Bannon, c'est pour se sentir plus proche des vivants, voilà. Donc voilà ce qu'amène, en fait, ce premier retour des morts-vivants. Donc, un zombie rapide, un zombie qui a la vanne facile, et un zombie qui bouffe du cerveau. Donc, et qui est plutôt malin, hein. Moi, je revois cette scène dans le premier retour des morts-vivants, où on a un zombie qui prend la radio, en fait, du SAMU, soit de la police, pour demander d'envoyer plus de policiers ou plus de médecins. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien vu, c'est pour ça que le premier film est un film culte et qui marche plutôt bien, et on a un mélange, en fait, des genres, où on s'adresse vraiment au public cible, c'est-à-dire un public adolescent qui va y voir des seins, des fesses, du gore, de la rigolade et de l'action. Donc c'est pour ça que ce film d'une heure et demie, hein, 90 minutes tenu montre en main par Dan O'Bannon, est un chef-d'œuvre du genre. Donc forcément, comme ça marche plutôt bien et que ça en fait un film culte, très rapidement, une suite est mise en chantier. Et c'est là que ça commence à se gâter, en fait. Donc on arrive avec un film qui débarque en 1900... Alors je regarde mes notes, je crois que c'est 88. En 1988, débarque un Retour des Morts-Vivants 2, mené par Ken Widerhorn. Alors Ken Widerhorn, il n'a pas fait énormément de films, mais il avait fait un film plutôt correct, qui s'appelle Shockwaves en VO, qui est Le Commando des Morts-Vivants, starring Peter Cushing et Brooke Adams, où il y a déjà des zombies. Mais ça, c'est un zombie nazi. Voilà, donc parce que... J'ai pas déroulé, mais le zombie peut avoir aussi une volonté et une volonté plutôt et une direction politique. Et dans celui-là, en fait, eh ben, il est nazi, issu du Troisième Reich, et a pour particularité de se mouvoir sous l'eau. Donc c'est un zombie slash aquatique slash nazi. Après, vous pouvez bouger le slash nazi devant zombie, mais je pense, parce que voilà, je vais vous partager une théorie, il me semble que le zombie ne peut être nazi, parce que si on part du principe qu'il n'a plus de cerveau, il n'est pas en mesure de choisir un camp. Donc, on pourrait dire plutôt qu'il s'agit d'un nazi zombie qui après se mouvoie de manière aquatique. Vous voyez, l'ordre des mots a son importance, c'est aussi la particularité du montage, c'est-à-dire l'ordre des plans. Cela ne raconte pas la même chose. Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai terminé une théorie fumeuse par quelque chose, on va dire, d'un peu plus intelligent. Voilà. Donc, le film était plutôt cool, donc on pourrait être en droit d'en attendre quelque chose de sympathique, et allez savoir pourquoi. C'est une comédie fantastique, Le Retour des Morts-Vivants 2, qui réutilise deux personnages d'ailleurs du premier film alors qu'ils sont décédés, mais dans d'autres rôles, mais qui finissent de la même manière, allez savoir pourquoi, que sont Tom Matthews et James Karen. Donc c'est un espèce de teen movie fantastique à rapprocher au niveau de l'ambiance d'un Monster Squad, d'un Goonies, mais avec des morts-vivants, c'est un peu rigolo, ça n'a rien à voir avec le premier film, bah c'est nul en fait, hein, on va se le dire. Hein. Donc alors, c'est nul, moi je vous parle de ma seule vision de l'époque. Vu le nombre de merde qui débarque sur les plateformes de VOD, peut-être qu'on pourrait dire que ça serait peut-être le haut du panier de ce qu'on a sur une plateforme de VOD aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, par rapport à son aîné, c'est quand même de la merde. Et c'est à ce moment-là, les amateurs du genre, le public, ne se déplace pas en salle pour voir ce film, il le rejette même en bloc, voilà, c'est pas un film qui a bonne réputation. C'est à voir pour votre culture cinéphilique, si vous avez envie de rajouter un élément de plus dans votre cerveau, mais ça s'effacera aussi rapidement que vous l'avez vu. Donc, très rapidement, c'est la société, une nouvelle société spécialisée dans le cinéma de genre, hein, à l'image, parce que gardez en tête qu'à cette époque, dans le milieu des années 80, début des années 90, une société comme New Line, qui fait des bénéfices monstres avec une saga comme les Freddy, donc un Sheena's Cunningham avec les Vendredi 13, ça donne des idées à d'autres boîtes, et une société comme Trimark Pictures essaye très rapidement de faire lui aussi des recettes sur l'horreur en vidéoclub et au cinéma, mais plus en vidéoclub, et met en place des franchises que sont les Warlocks, voilà, que je chroniquerai un de ces quatre, hein, voilà. Franchise, les Warlocks, voilà, c'est là où on réveillerait un démon, on réveille un sorcier. Voilà, le 1 et le 2 sont plutôt cool, mais ils sont aussi surtout connus, Trimark Pictures, pour la saga des Leprechauns, ou Leprechauns, selon comment vous le prononcez. Donc Warwick Davis, le nain le plus célèbre d'Hollywood, avant de jouer dans des Star Wars ou autre, il est aussi connu pour jouer un farfadet irlandais, plutôt moche et plutôt avide d'argent. Donc comme quoi le trèfle à quatre feuilles irlandais ne porte pas forcément chance. À noter que dans le premier film, c'était l'un des tout premiers rôles à l'écran, d'une actrice plutôt connue que l'on a vue dans Friends, et ce n'est pas Courtney Cox, si vous voyez ce que je veux dire. Trimark Pictures, on les retrouvera aussi, forcément, parce que ils vont racheter les droits du Retour des Morts Vivants 3 et bosser avec Brian Usna, donc forcément, on les retrouvera à la prod de films de Brian Usna, notamment les deux dentistes, et on peut leur noter comme fait de gloire d'avoir eu du nez pour produire un Greg Araki qui est Doom Generation, et pour produire aussi le premier film d'un Italien, Vincenzo Natali, qui est Cube, voilà, qui sera plutôt un bon coup, voilà, faible budget et gros retour sur investissement. Une société, Trimark Pictures, qui mettra la clé sous la porte en 2001, et ses franchises seront rachetées par, au final, le successeur naturel aujourd'hui d'un Trimark Pictures, qui est un Lionsgate, hein, Lionsgate dont une sous-filiale est Twisted Pictures, qui a produit notamment la saga des Sceaux. Voilà, comme quoi la boucle est bouclée. Donc c'est bien de vous faire un petit peu, vous donner un petit peu un contexte de production à l'époque et aujourd'hui, faire des comparatifs et pour vous montrer qu'au final, plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. Donc, ce Retour des Morts Vivants 3 qui est très rapidement proposé à notre ami Brian Usna. En même temps, Brian Usna s'est fait un nom dans le milieu en produisant les Gordon, qui sont plus réanimateurs, si on regarde bien, que ça soit le premier par Gordon et le deuxième par Monsieur Usna, c'est des films de morts-vivants, voilà, c'est des films de zombies. Donc ils se sont fait un nom, donc tout naturellement, nous sommes en 91, et on lui propose très très rapidement, parce que ce qu'il faut comprendre avec ce film, c'est que c'est quelque chose qui va être tourné en 6 semaines, donc je vous laisse imaginer qu'habituellement, il faut entre 3 et 6 mois pour emballer ce genre de choses, au final, il a un mois et demi pour le faire, voilà, et avec des tournages, avec un tournage à rallonge, c'est-à-dire que les 24 heures d'une journée, voilà, d'un jour complet, sont pleinement exploitées, voilà, et là je me base sur les dires des acteurs, notamment dans les making-of disponibles sur cette fabuleuse édition signée Le Chat qui Fume, mais j'y reviendrai en fin de chronique. Donc on lui propose très rapidement de réaliser ce projet-là. Projet écrit à quatre mains. Alors bon, Usna n'est pas forcément crédité, mais on sait qu'il a collaboré de près avec le scénariste John Penny. Et John Penny, ça deviendra un ami tellement que ça sera son scénariste aussi sur la fin de sa carrière, notamment pour un Amphibious 3D. Et ils reprennent les éléments d'origine du concept. Alors quel est cet élément d'origine? C'est-à-dire que les zombies, d'où viennent les zombies dans le Retour des Morts Vivants? Et dans le premier film, il était dit que devenaient des zombies, les gens exposés à un gaz développé par l'armée, et que c'est pour ça que George Romero a changé un petit peu l'origine des zombies, c'est-à-dire la comète, pour masquer le fait que c'était une expérience militaire. Donc ce gaz s'appelle la trioxine. Dans le développement de ce gaz-là, dans le contexte de la narration, il a été développé par l'armée pour contrer les effets de la drogue, et au final, ils se sont rendus compte que ça réanimait les morts. Voilà. Donc, on garde le concept de ce gaz-là, on garde le concept que ce gaz est enfermé et contenu dans des containers avec le résultat de leur expérience, c'est-à-dire des zombies dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Je remets le contexte du premier film, c'est-à-dire que le final du premier Retour des morts vivants, c'est raser la ville en fait, voilà, par le biais d'une arme nucléaire. Sauf que à chaque fois qu'on brûle ou qu'on explose un de ces zombies, le gaz se libère, donc en fait le problème est toujours présent. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils enferment le gaz et on va dire les zombies dans des containers. Donc on garde le gaz et les containers, et aussi, et c'est ça qui est intéressant, on va garder aussi une des sous-intrigues du premier film, qui était l'histoire d'amour entre le personnage principal, donc incarné par Tom Matthews, et sa petite amie. Lui devenait un zombie et il essayait de lui bouffer son cerveau. Voilà, donc on garde cette idée-là. Et dans un sérieux quasi papal, Brian Usna décide de prendre ces deux idées et de faire un Roméo et Juliette au pays des zombies. Et j'ai envie de vous dire, eh bien, grand bien lui en a pris. Voilà. Donc voilà le point de départ de ce scénario, et il n'y a aucune volonté de développer en fait des arcs narratifs subalternes pour d'éventuelles séquelles. Voilà, donc Brian Usna le dit, notamment, je me base aussi sur ses propres dires, mais il le dit dans le making-of, il a souvent répété en interview que lui, il voyait ce film comme un stand-alone, et c'est vrai que c'est un stand-alone, et je ne vais pas vous mentir, parce que j'en parlerai après sur la suite de la saga, sur un ensemble de 5 films. C'est quand même un film qui prend ses distances avec le premier opus, tout en finale, en lui tenant la dragée haute. Donc, dans ces 5 films, il est le deuxième plus intéressant de cette saga qui n'était pas vouée à en devenir une. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'amour entre deux... Alors oui, ça reste les adolescents des années 90. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, adolescents des années 90 ? Ça veut dire que c'est incarné par des acteurs de 25 ans, à peu près. Voilà. Donc, c'est deux jeunes adultes, voilà, qui sont amoureux l'un de l'autre. Hein. Donc, d'un côté, on a Kurt, incarné par J. Trevor Edmonds, qui n'a pas eu une grosse carrière. On a vu sa tête dans Madame est servie et Beverly Hills. Voilà, ça c'était pour son côté glorieux de l'époque avant d'intégrer ce Retour des morts vivants 3. Et on a pu le revoir chez John Singleton en Fièvre à Columbus Université, et de nouveau quelques années après chez Clive Barker pour Le Maître des Illusions dans un tout petit rôle. Il ne le cache pas, parce qu'on a un making-of, on a un petit bonus dédié à J. Trevor Edmonds, qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Il s'est éloigné en fait des écrans il y a plus de 15-20 ans, voilà, depuis. Donc voilà, donc on a le personnage de Kurt, et on a le personnage de Julie, incarné par Mindy Clark. Alors ce qui est très drôle avec Mindy Clark, c'est que c'est un peu comme Paul W.S. Anderson, vous savez ce réalisateur, donc Paul Anderson, quand il fait Paul W.S., quand il fait des films gore, genre Event Horizon, quoi, c'est Paul Anderson, et quand il fait des trucs un peu plus glorieux, c'est Paul W.S. Anderson, un peu comme Larry et Laurence Fishburne, qui sont la même personne. Donc Larry Fishburne, il est bon pour violer la famille de Charles Bronson dans Le Justicier dans la ville. Alors je sais plus lequel, je crois que c'est le numéro 2. Voilà, mais il devient Laurence Fishburne pour Matrix. Voilà. Et ben Mindy Clark, quand elle est topless dans Le Retour des morts vivants 3, et ben c'est Mindy. Par contre, quand elle joue dans Sliders, Nash Bridges, Newport Beach dans un rôle récurrent, Nikita et Vegas, ça devient Melinda Clark. Voilà. Et on ne va pas se mentir, c'est notamment le principal attrait de ce Retour des morts vivants 3. Non pas parce qu'on y voit généreusement sa poitrine, mais plutôt parce qu'elle bouffe l'écran à chaque apparition. Voilà. Donc comment définir le plot de départ? Alors, Kurt, incarné par J. Trevor Edmonds, c'est le fils d'un militaire, et je vous le donne en mille, ce militaire, donc comme dans tout cliché, a perdu sa femme, il délaisse un petit peu son fils aîné, et du coup son fils aîné s'amourache... On va se le dire, hein. D'une meuf toxique, hein, parce que c'est un petit peu ça, hein, le personnage de Julie à l'intérieur, mais je développerai un petit peu ça, vous faire rire. Donc voilà, et c'est un militaire qui a repris les expériences des militaires sur la trioxine qu'on avait vu dans le premier film. Voilà. Donc on imagine bien que au final, comme c'est un film qui s'adresse aux ados, on y traite quand même, parce que le scénario est loin d'être con, hein. Moi je trouve que c'est un excellent scénario, hein. Donc les choses se mettent bien en place au fur et à mesure. Il y a plusieurs sous-intrigues, il y a une gestion du climax aussi, il y a un double climax dans ce film là on est presque, c'est James Cameron, bordel. Et effectivement on y traite de plein de choses, donc c'est-à-dire l'incompréhension de cette période de la vie qui est l'adolescence, c'est quand on prend le point de vue en fait de Kurt. Donc l'incompréhension par rapport au monde des adultes. Bien entendu, tout ça est matiné de culture métal, hein, parce que c'est les années 90, donc même si on n'entend pas du métal à l'intérieur, bon, on sent bien que le look de la petite amie toxique du héros est typiquement le genre de groupie qu'on pouvait voir dans des concerts de heavy metal dans les années 90, hein, pour ceux et celles qui les ont fréquentés. C'était potentiellement, peut-être aussi pour vous, messieurs qui m'écoutez, qui avez le même âge que moi, l'une de vos petites amies, ça vous fera sourire. Et donc, du coup, on a tout l'accoutrement, même le personnage principal, voilà, va porter un look typique de cette époque-là, c'est-à-dire quoi, le t-shirt à l'effigie d'un groupe auquel on aurait coupé les manches, voilà, histoire d'en faire une sorte de simili Marcel, que la mèche un peu longue, le jean un peu troué et la chemise un petit bûcheron par-dessus, look qui est revenu ces dernières années d'ailleurs, soit dit en passant, qu'on retrouve chez H&M. Voilà, je vous fais le lien par rapport à aujourd'hui. Et donc on va y parler, quand on prend le personnage de Kurt, donc de l'incompréhension du monde des adultes, et du découvert du sentiment amoureux, des premiers rapports sexuels, et si on prend le cas de figure de Julie, et ben de ce qu'est être une femme. Donc quelque part, il y a beaucoup été revendiqué que le jeu qu'elle mène, une fois qu'elle est devenue zombie, c'est celui d'une droguée. On peut y voir aussi en sous-main, également, le fait du passage à l'âge adulte pour une femme, les règles, etc., etc., etc. Voilà, les changements hormonaux et ainsi de suite, le premier petit ami, le côté sérieux du premier couple. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont pas si cons que ça dans un film aussi bourrin que celui-là. Voilà, donc, c'est vrai qu'à l'art voyant aujourd'hui, j'y vois un peu plus de finesse. Voilà. Donc, bien entendu, alors, pourquoi je parlais du côté toxique? Parce que, finalement, tout ce qui se passe dans le film, quelque part, le personnage de Mindy Clark, Julie, est fortement inspiré du personnage de Linnea Quigley dans le premier Retour des morts-vivants. Voilà. Dans le premier Retour des morts-vivants, Linnea Quigley, c'était la meuf qui fantasmait sur le fait de se faire bouffer par les zombies, qui n'hésitait pas à danser nue sur une tombe dans un cimetière. Bon, elle faisait des trucs qui faisait que techniquement, si c'était votre petite amie à l'époque, vous l'auriez pas présenté à vos parents. Et au final, Julie, c'est un peu plus soft, mais on n'en est pas loin. C'est-à-dire que, quelque part, ça roule en moto sans casque, ça n'hésite pas à tripoter le pénis de son petit ami pendant qu'on roule. Bon, même si lui, il lui dit de se calmer, et elle éprouve une certaine forme de fascination pour la mort, pour le danger. Et c'est pas moi qui le dis, c'est quand même exprimé dans le film, quand le personnage de Kurt, donc son petit ami, vole la carte d'accès de son père et que tous les deux se retrouvent à observer une des expériences du fameux daron qui est de ranimer un vieux gars d'entre les morts, elle repart tout excitée. La première chose qu'elle fait, c'est faire l'amour à son conjoint en pensant à ce qu'elle a vu. Bon, moi je vous le donne en passant, voilà, c'est un petit conseil, on sort des clous de 7ème dimension. Si votre relation au moment de l'acte vous parle de ce genre de choses, on est typiquement dans le red flag, les amis, hein. Donc là, il y a un haut degré de névrose. Donc effectivement, Donc, tout ce qui suivra par la suite est plus ou moins du fait de Julie. Donc, c'est-à-dire que le fait qu'elle passe de vie à trépas, à un moment donné, quand tu roules de nuit sans casque, voilà, bon, t'évites de tripoter le pilote, parce qu'il y a de fortes chances que tu te peignes en poteau en plein air, parce qu'elle fait un vol plané, hein, c'est ce qui se passe très rapidement. En voulant éviter un camion, forcément en perdant le contrôle, la meuf fait un vol plané et elle embrasse le poteau électrique le plus proche assez rapidement. Donc, ce qui fait qu'elle meurt sur le coup. Après, bien entendu, je traite ça avec décontraction, mais c'est un peu ce qui se passe. Donc, Kurt étant... Alors, on va quand même le dire. Hein. Et c'est pas lié au doublage français. Hein. Tout ce petit monde joue comme des cochons, quand même. Hein, parce que le J. Trevor Edmond, je vois cette scène-là. Quand il se relève de sa moto, qu'il prend le corps de sa bien-aimée entre les mains et qu'il regarde vers le ciel, caméra de Brian Yuzna mis en plongée. Bon... il aura pas l'Oscar le type hein. Et on peut comprendre aussi pourquoi il a pas eu la carrière qu'il désirait après, bon c'est pas une perte, je suis désolé, c'est sympa mais il faut quand même être réaliste hein. Et je vais vous dire, hein, même des acteurs de soutien qu'on a vu un peu partout comme l'acteur qui joue le rôle de son père et tous les généraux dans le film, ils sont mauvais comme des cochons. Voilà, le padré là, pour lui tirer une émotion, il faut aller la chercher quand même hein. Alors c'est vrai que dans un des bonus où Brian Yuzna prend la parole face à son scénariste, moi ça m'a interpellé parce que c'est vrai qu'il dit, il parle du travail d'acteur pour incarner un rôle et que pour lui ça lui est étranger et qu'apparemment bon il y a que quand il les dirige, bon on comprend un peu mieux aussi pourquoi dans les films de Brian Yuzna certains des acteurs sont en roue libre ou sont mauvais comme des cochons. Donc c'est pas un grand dirigeant, c'est pas un grand directeur d'acteurs. La force d'un film de Yuzna, c'est cette espèce de folie homogène qu'on a dans l'ensemble, c'est outrancier. Donc peut-être que le fait que les acteurs soient mauvais comme des cochons, c'est un petit peu pour tenir la dragée au SFX fou qu'on peut voir dans le film, peut-être. Voilà, c'est une question à se poser. Bon, en tout cas, ça tombe bien parce que bon, ils ont assisté à la réanimation d'un mort avec la trioxine. Donc très rapidement, Kurt, ne voulant pas se séparer de sa petite amie, bah, il décide de retourner dans le complexe militaire et de l'exposer au gaz. À la trioxine et dans la série des mauvaises idées et eh ben c'était la pire, voilà. Bon, après on va pas se mentir, effectivement si on se mettait à la place du personnage, moi si j'essaye de me remettre dans mon contexte quand j'étais ado, elle est mignonne hein, la Mindy Clark, je pense que tout le monde ici même aurait fait la même. On aurait été la réanimer, voilà, parce qu'il y a quand même un joli brin de fille, voilà. Donc, effectivement, fou amoureux, et donc il y a fou dedans, donc il la réanime, et à partir de là, s'ensuit une lente descente aux enfers, tant dans les péripéties que dans la découverte de sa nature zombiesque, c'est-à-dire que Julie va devoir lutter entre son désir irrépressible de dévorer du cerveau, tout en gardant cette part d'humanité qui est en elle, c'est-à-dire l'amour qu'elle porte à Kurt. Voilà ce que raconte ce retour des morts vivants 3. Eh bien, figurez-vous ce film a été... à la revoyure hein, dans cette copie Blu-ray, dans ce master Blu-ray réédité par Le Chat qui fume, et ben ça a été une sorte d'ascenseur émotionnel parce que je ne me serais pas attendu parce que bon moi j'étais resté sur ma vision initiale à éprouver certaines formes de sentiments et d'empathie envers ce couple à l'écran, et je trouve que c'est un sacré tour de force de la part de Brian Yuzna, parce qu'une fois on va dire nettoyer tout ce qui fait l'appartenance au genre, hein, c'est-à-dire le délire FX, etc. Et ben, je pense qu'après 30 années, j'ai enfin compris ce que voulait faire Brian Yuzna, Et ça en fait peut-être, voilà, j'ai pas besoin d'attendre la fin de ce podcast pour le dire, peut-être son meilleur film. Voilà. Non pas en termes visuels, parce que je l'avais déjà exprimé dans l'épisode sur la saga Reanimator, même s'il a fait des efforts, notamment dans Beyond Reanimator, à bouger un peu plus la caméra, à tenter des travelling, de se rapprocher un peu du style de Stuart Gordon avec du crash zoom, etc. C'est pas un grand chorégraphe. Comme on l'a vu, c'est pas un grand directeur d'acteur, mais par contre, il a eu du nez pour ces idées-là, et elles sont plutôt bien menées, ce qui amène d'autant plus de charme à l'étrangeté globale de ce film-là, c'est-à-dire, on peut le consommer comme un film gore du vendredi soir, du samedi soir, parce que ça marche très très bien, sa durée en version unrated, c'est-à-dire non censurée, d'ailleurs je pense que la version qu'on a eue, exploitée par TF1 Vidéo, était la même, hein, donc sur 1h37, générique compris, on a quand même une belle proposition horrifique pour un vendredi ou un samedi soir, et en même temps, on n'était pas venu chercher ça, et on a quand même une jolie histoire en sous-main, une jolie love story, qui se finit de manière tragique, et quand même, c'est quand même le tour de force du film, et tout ça ne tient à rien, si ce n'est au talent de l'actrice principale, parce que c'est elle le moteur de tout ça en fait. Elle est sur la cover de cette édition Blu-ray, elle était sur l'affiche originale du film, c'est elle qui porte le film sur ses épaules. Donc Mindy Clark fait le taf, et en une seule prestation, parce qu'elle aurait... Alors, je développerai un peu le reste de sa carrière, en une seule prestation, elle est rentrée à jamais dans l'inconscient collectif des amateurs de cinéma de genre. D'ailleurs, dans son bonus qui lui est dédié, elle n'arrête pas de dire qu'en convention... Alors, d'ailleurs, voilà, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des parenthèses dans 7ème dimension. Ce qui est assez drôle, c'est qu'elle raconte... Alors déjà, d'une... ça reste, quoi qu'il arrive, une femme splendide, parce qu'elle a déjà plus de 50 ans, elle reste une... certaines auditrices vont dire, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que passer 50 ans, on est moche? Non, je dis, ça reste une très belle femme, voilà. Et au détour d'une anecdote par rapport à ses apparitions dans des conventions d'aujourd'hui, alors parce que les bonus datent de 2016, donc bon, je pense que c'est toujours le cas, donc lors d'une convention, elle est toujours surprise, voilà, qu'elle ait fait une convention, notamment liée à l'exploitation du retour des morts vivants 3, etc., parce que n'oubliez pas, hein, les conventions, c'est aussi un moyen d'arrondir les fins de mois, hein, pour certains acteurs de série B ou actrices de série B, et elle est toujours surprise, apparemment, elle est surprise que certains viennent et lui disent que ce film-là, ben, ça les a marqués, et notamment certains qui disent qu'ils sont tombés amoureux d'elle par rapport à ce film. Moi, je pourrais vous dire que effectivement, elle crève l'écran, elle est d'une beauté infernale, je pense que c'est le terme. Et ça, le maquilleur Steve Johnson n'y est pas pour rien, mais j'y reviendrai. Donc, le film repose entièrement sur les épaules de Mindy Clark. Alors, j'étais en train de vous dire que dans ce bonus, dans cette parenthèse, alors, elle a tendance à oublier ce film qui s'appelle Killer Tongue, et à dire que La Langue Tueuse, hein, qui est aussi un film où elle est plutôt mise en avant de manière sexy dans le film, hein, elle a tendance à oublier, parce que pour elle, dans ce bonus, elle ne fait que dire qu'elle n'a fait qu'une incartade dans le cinéma horrifique, et que c'était au début de sa carrière, qu'elle avait 22 ans, notamment pour Le Retour des Morts Vivants 3, que ça savait pas trop ce qu'elle jouait, etc. Et à côté de ça, tout le reste de sa filmographie dit le contraire. Parce que on la retrouve quelques années plus tard dans Killer Tongue, on la retrouvera dans Spawn, elle ira faire un tour aussi dans des séries à forte consonance fantastique comme Xena ou Sliders, donc, et elle nous dit qu'elle fait des conventions. Donc, si Melinda nous écoutait, j'aurais envie de dire, bon, il serait peut-être temps d'être cohérent dans tout ça. Et c'est pas mal de dire que, bon, effectivement, on a pu jouer dans ce film-là, et c'est d'ailleurs très drôle, et elle nous parle aussi de sa fille, qui apparemment n'est même pas au courant qu'elle a joué dans Le Retour des Morts Vivants 3. Bon, tout ça pue le storytelling hollywoodien à plein nez, parce qu'il suffit de taper le nom de Mindy Clark ou Melinda Clark sur Google, et de suite on tombe sur un visuel du Retour des Morts Vivants 3. Bon, à moins qu'elle vive au fin fond d'une contrée où il n'y a pas de réseau Wi-Fi et il n'y a pas de 4G, bon... Tout ça sent bien, bien entendu, le storytelling hollywoodien, et qu'elle ne veut plus... Enfin voilà, ça... Alors, ça m'a plu de l'entendre, et en même temps, ça m'a un peu gêné, parce que j'ai l'impression que, bon, elle dénigre un petit peu le genre horrifique, et en même temps, c'est le genre horrifique qu'il a fait. Donc des fois, il faut se rappeler d'où on vient. Voilà, donc ça, c'était important d'en parler. Voilà, d'un côté, il y en a une qui a eu une carrière et qui s'en serait bien passée. De l'autre, on agit très voir un monde dans le bonus qui aurait aimé avoir une carrière et qui n'en a pas eu. Comme quoi, personne n'est content en ce bas monde. Voilà, donc elle porte plutôt bien le film. Et à noter aussi, parce que ça, j'en avais pas parlé, c'est qu'on a un compadre dans ce putain de film. Eh oui! C'est-à-dire que dans le rôle du Clodo Riverman, parce qu'un bon film contient toujours un Clodo, nous avons l'ami Basil Wallace. Et Basil Wallace, je l'aime d'amour. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est le Screwface de Désigné pour mourir. Eh ben, j'ai envie de vous dire, ce mec-là, pour moi aussi, il est rentré dans le panthéon des fous furieux cultes, parce que Screwface, comme il le dit, Screwface voit tout. Voilà. Donc ça, c'est top. Voilà, dans le rôle du Clodo Riverman et qui paiera un peu la note. Alors, qu'est-ce qu'on peut se retenir de ce film? Alors, cette performance de Melinda Clarke, elle est à tous les niveaux. Alors déjà, c'est une jeune femme magnifique. Et... Tonton Yuzna n'est pas radin, donc vous la verrez souvent topless, pour votre plus grand plaisir. Et comme Tonton Yuzna n'est pas radin, quand il va la grimer en super zombie, en référence au EC Comics, pour avoir une image très graphique, et au final, c'est du cinéma d'exploitation, donc faut vendre un peu le beefsteak, il fait appel... ou à un autre maître des SFX. Alors, ce qui est cool avec ces petites vérifs que j'organise en ce moment, c'est que ça permet aussi de remettre en avant des noms illustres qui étaient Rick Baker, Rob Bottin, Chris Wallace. Et là, c'est le cas de Steve Johnson. Voilà. Alors, à savoir que pour mener le boulot sur un délai aussi court, il n'y a pas que Steve Johnson. Dans l'affaire, dans l'histoire. Il y a plusieurs sociétés, dont bah, forcément les incontournables des années 90, KNB, qui était d'ailleurs tout droit sorti du Army of Darkness et Evil Dead 3 de Sam Raimi, et qui vont recycler pas mal de créatures, hein, si vous regardez bien, notamment dans le dernier tiers du film. Si vous faites des arrêts sur image, vous verrez qu'il y a certains concepts qui sont quasi similaires à ce qu'on peut voir dans Army of Darkness. Mais bon, le père Steve Johnson, c'est lui qui va être en charge du design final de Melinda Clarke, et c'est pas étonnant que ça soit sexy as hell et qu'elle soit magnifiquement infernale. C'est parce que ce monsieur commettra quelques années plus tard le design d'une autre sexy as hell, donc qui est Natasha Henstridge, pour l'une de ses premières incursions cinématographiques et très marquantes, pour La Mutante. C'est lui qui sera à l'origine du design, donc en réadaptant bien entendu certains croquis de H.R. Giger, voilà, mais c'est lui qui adaptera ça de manière prosthétique et en pilotant les CGI pour La Mutante, un film qui mériterait d'être chroniqué à 7ème dimension. Alors pourquoi il mériterait? Parce qu'on y parle d'une extraterrestre plutôt sexy et qui est venue utiliser la jante masculine pour se reproduire. Et sans déconner, si c'est pas un pitch fait pour celui qui tient le micro, je sais pas qu'est-ce qu'il me faut. Donc voilà, on le retrouvera aussi chez Cameron pour The Abyss. C'est quand même on va dire quelqu'un qui commence sur les effets prosthétiques et qui arrive à se recycler et à prendre le virage très rapidement avec des effets numériques, et qui peut aussi, qui est assez volatile et qui peut se décliner à différents types de niveaux. C'est pour ça qu'on le retrouve notamment chez Cameron pour Abyss. On le retrouvera chez John Landis, parce que John Landis a eu fait un film de vampire, oui monsieur, oui madame, qui s'appelle Innocent Blood. Et on le retrouvera aussi chez Clive Barker pour Lord of Illusion, notamment chez Del Toro pour Blade 2. Donc, et à noter que le monde horrifique est une petite famille, et c'était aussi le mari, donc il est l'ex-mari de Linnea Quigley. Donc comme quoi, un retour des morts-vivants en amène un autre, quelque part, et j'ai envie de vous dire, la boucle est bouclée. Donc qu'est-ce qu'on va retenir, parce que je vais pas non plus tout raconter sur ce retour des morts-vivants 3, hein, je vous laisserai récupérer cette fabuleuse édition limitée que vous pouvez trouver bien très cher en occasion, hein, sur tous les sites habituels, et qui se trouve aussi notamment en VOD assez facilement. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc la prestation de Melinda Clarke qui crève l'écran, donc elle joue ce passage du coup, de vie à trépas, telle une droguée, et franchement, au niveau de ses yeux et de sa gestuelle, on sent bien que c'est un putain de calvaire, et on sent bien la dualité entre... on sent bien que cette dualité qui fait que son accroche pour rester humaine, eh ben c'est Kurt, en fait. Et ça, c'est plutôt bien mené par l'actrice. Donc, je pense que si ça avait été mal joué, le film se serait effondré, même si les SFX sont plutôt cool. Voilà, parce qu'on est quand même chez Yuzna. Donc, on y croisera, bien entendu, beaucoup. Alors ça, c'est un signe aussi qu'on est chez un Yuzna. C'est que quand quelqu'un se fait bouffer par un autre... Enfin, lui, il a beaucoup de zombies avec le haut du crâne qui continue à déambuler alors qu'il leur manque le haut du crâne. C'est quelque chose qu'on voyait dans Necronomicon. C'est quelque chose qu'on verra dans ses autres films aussi. Donc, quelque part, cet asiatique de super-être qui avait rien demandé, qui déambule avec l'eau du crâne, est une image en fait qui est très symptomatique du cinéma de Yuzna. Donc, s'y mélange dans ce récit qui, au final, va faire quoi ? Eh ben, c'est reculer pour mieux sauter. C'est une lente descente aux enfers et qui inexorablement, on va y arriver, mènera notre personnage principal également de vie à trépas. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans ? Est-ce que l'amour toxique est dangereux ? Parce que n'oubliez pas qu'on est quelque part dans un cinéma américain, donc puritain, donc une relation comme celle-ci. Donc, moralité américaine ne peut mener qu'au désastre. C'est un petit peu ce qui se passe dans ce film-là. Donc, sur ce chemin qui mène de vie à trépas, on y croisera donc un gérant de supérette. On y croisera un gang de Chicano aussi, hein, qui vont bien payer la note, et bien entendu, du militaire très mal incarné par, à la fois, on pourra retrouver dans un rôle de militaire-médecin, le réalisateur Anthony Cox, voilà, qui sera derrière Warlock 2, on est chez Trimark, hein, n'oubliez pas, donc, et le Warlock 2 avait été tourné et sortait à peu près à la même période, voilà. Donc on nous trouvera Anthony Cox, on y trouvera même le scénariste du film, et tout ce petit monde se conclura dans le sang et la tripaille, et ça finira finalement un petit peu comme le personnage, alors je cherche son nom, de James Karen, voilà. Je regarde un petit peu les notes, le personnage de James Karen dans le premier Retour des morts vivants, c'est-à-dire que bah, Kurt s'étant fait mordre en essayant de sauver sa petite amie, bon, bah, qui est déjà morte, et ben il est condamné, et tous deux décident de finir à la crémation. Voilà. Et tout ça de finir finalement avec quasiment un fondu au blanc avant de taper sur le générique. C'est plutôt bien senti. Voilà, j'ai bien aimé ce final qui est très touchant. Et Brian Yuzna a le mérite de mener sa barque gore horrifique jusqu'au bout. Donc il n'a pas volé le titre de Roméo et Juliette chez les zombies. Ça marche plutôt bien. Voilà, c'est un film qui ne démérite pas, parce que c'est un très petit budget, mais le talent déployé au niveau des SFX, cette intrigue menée tambour battant, cette accroche aussi à cette love story qui au final va inonder tout le métrage, fait de ce film un classique, et j'ai presque envie de vous dire, quasiment un chef-d'œuvre. C'est pas beau ça ? Voilà, vous ne l'auriez pas cru, voilà. Donc, de m'entendre dire ça d'un film de Brian Yuzna, mais je pense que ce film-là, c'est son chef-d'œuvre, et peut-être considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma de genre. Alors oui, c'est une série B, c'est une petite série B, c'est modeste, mais c'est un petit film qui a tout des grands films. C'est-à-dire que sa force, là où il tire sa force, c'est par son ambition. Et il arrive, en tout cas moi, il a réussi à me capter et à me faire avoir de l'empathie pour ce couple et à me faire me projeter dans une pareille situation. Et effectivement, si j'avais été aussi amoureux que Kurt, et moi je vous pose la question, est-ce que vous aussi vous auriez fait exactement la même chose que le personnage principal ? Moi en tout cas, je l'aurais fait. Voilà. Donc, pour conclure cette chronique tout en émotion et tout en excitation sur le retour des morts vivants 3, quelle est la suite en fait ? Alors, il y a eu deux autres films qui sont arrivés plus tardivement, et je vais pas vous mentir, que je n'ai pas vu, réalisé par Ellory Elkheim, qui était derrière déjà Arak Attack, voilà, qui est plutôt une série B cool, voilà, sur des araignées géantes, avec David Arquette, voilà, qui est plutôt fréquentable, et voilà, c'est une histoire, bon, c'est tourné sur une île, ou dans une rave party en Europe de l'Est, c'est tourné coup sur coup, bon, vous avez compris, j'avais déjà dit dans un podcast précédent, que tous ces films-là tournaient à la chaîne pour exploiter le filon, voilà, et en plus quand ça arrive très tardivement, voilà, très peu pour moi, j'ai l'impression que c'est difficilement trouvable, parce que même en faisant des recherches, les wikis sont pas forcément renseignés, notamment en langue française, donc voilà pour ce que ça a amené. On peut noter aussi que ce retour des morts-vivants 3, cette espèce de délire avec la trioxine, côté militaire, ce côté histoire d'amour, et bien quelque part, c'est un petit peu le fond de commerce qu'a repris Robert Rodriguez pour Planète Terreur. Voilà, pour ceux et celles qui ont vu Planète Terreur, si vous vous posez la question d'une quelconque originalité, ben il n'y en a pas. Donc ça a piqué beaucoup de choses au film de Yuzna, et je tenais quand même à le dire, même si j'aime beaucoup cet aspect de la filmographie de Robert Rodriguez, à noter. J'en discutais d'ailleurs, je lui fais un petit coucou s'il m'écoute, à un de mes collègues barbiers, voilà, qui est un de mes barbiers, et il me disait qu'à la revoyure, eh ben, Planète Terreur, ça le faisait moyen, et moi c'est aussi ce qui s'est passé, je l'ai revu dernièrement. Autant Une Nuit en Enfer, ça passe, mais alors celui-là, c'est dommage, hein, j'avais pris un maximum de plaisir à l'époque, mais je pense qu'il est inscrit dans une époque, et ben il fait mal. Voilà, à la revoyure, ça passe moyennement bien. Mais en tout cas, il lui a pompé toute son originalité quasiment, et ça vient de du Retour des Morts-Vivants 3. Ce master que j'ai pu chroniquer, eh ben j'ai pu le faire grâce au travail d'orfèvre du Chat qui fume. De toute façon, le Chat qui fume, avec un nom pareil, je ne pouvais que kiffer. Voilà. Donc c'est un éditeur français, on en avait déjà parlé sur cet épisode, acheter des films c'est bien, et j'aime beaucoup les éditions du Chat qui fume, ils arrivent presque à me faire acheter des films que j'ai pas envie d'acheter, tellement je suis content de rajouter une nouvelle tranche dans cette jolie collection, le Chat qui fume. Ils avaient édité en 2017 le premier film, il avait plutôt bien fait, et quand j'ai vu qu'ils éditaient le troisième en 2019, et ben je me suis rué dessus, et donc vous voyez, 5 ans plus tard, je le chronique. C'est une édition magistrale, alors d'une, parce que comme ça, ça me permet d'avoir le 1 et le 3 qui sont les meilleurs chez le même éditeur dans des éditions similaires, mais surtout que là, on a mis les petits plats dans les grands, donc ils ont repris tous les bonus et le master refait par Vestron Vidéo. Alors Vestron, c'est quand même des gens qui, dans les années 80, étaient un éditeur et un producteur de direct ou vidéo, notamment les Pierre Charles Monde. Voilà. Donc, et de voir qu'ils continuent à produire du Blu-ray, etc., et ben, ça m'a fait sourire de voir que c'était eux qui avaient produit ces bonus-là. Donc, on a là-dedans, voilà, donc moi, c'est ce que j'ai pu noter. Et pour une fois, je me suis tout rincé. Donc, bon, hormis le commentaire audio, c'est vrai que. Les commentaires audio, je les consomme quand c'est du John Carpenter ou autre, parce que je sais qu'ils partent en couille sur plein d'anecdotes qui n'ont rien à voir avec le film. Bon, là, j'ai pas poussé le délire, parce qu'en même temps, les bonus sont assez conséquents. Donc, on va avoir 4 making-of de durée variable. Hein. Ça peut être de 15 à quasiment 30 minutes. Donc, on a 5 docus. Donc, un sur un par acteur principal. Donc, comme je l'ai dit, alors, comment il s'appelle déjà, lui ? J. Trevor Edmond et l'autre sur Melinda Clark. Voilà. On a un échange entre Brian Yuzna et son scénariste. Un dédié au FX où c'est Steve Johnson qui prend le lead, et un autre dédié à la boîte de prod Trimark. Voilà. Techniquement, tout est génial, que ça soit l'écran en lui-même, bah, qui est dans le plus pur style, le Chat qui fume, que dans le menu animé, et les bonus, tout est super propre, donc il y a un gros travail éditorial pour tout mettre bien comme il faut. Donc, qu'est-ce que je peux dire si ce n'est merci au Chat qui fume de nous permettre de redécouvrir eh ben, cet émoi adolescent que fut Mindy Clark en petite tenue zombie dans un film de Brian Yuzna. Donc voilà, c'était notre vérif dédié au Retour des Morts-Vivants 3. On y a pris du plaisir, je ne peux que vous le conseiller. Et comme à mon habitude, j'arrête pas de le dire, ici notre créneau à nous, c'est le cinéma genre bordel. Merci pour votre écoute.
prends maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de...
Septième dimension en mode podcast.